Vous êtes sur RTL.
Comment vont, comment travaillent, qu'est-ce qui inquiète aujourd'hui nos services d'espionnage ou de contre-terrorisme? Voilà un sujet sensible sur lequel la délégation parlementaire au renseignement a planché. Ça a donné lieu à un rapport de 140 pages que vous avez rédigé, Yaël Braun-Pivet, vous qui êtes aussi la présidente de la commission des lois à l'Assemblée. Bonsoir Yaël Braun-Pivet.
Bonsoir.
Dans ce rapport, il est beaucoup question de la menace terroriste. En 2018, 7 attentats ont été déjoués en France. Il y en avait eu 58 déjoués depuis 2013. Dans le rapport, vous parlez d'une menace élevée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut redouter, comme l'a écrit le Guardian, une vague terroriste en France d'ici la fin de l'année 2019. Est-ce que c'est ça l'inquiétude des services aujourd'hui ?
Non, je ne crois pas qu'il faut être aussi alarmiste. Ce que nous disons et ce que nous constatons, c'est que la menace reste élevée, que la menace a évolué, qu'elle est devenue propre au territoire français, avec des individus qui, en général, ne sont jamais allés à l'étranger et qui agissent de façon isolée.
C'est ce que vous appelez la menace endogène, hein, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, tout à fait. C'est une menace endogène par opposition à une menace exogène, donc qui venait de l'extérieur et qui était finalement, alors, qui était d'une autre nature et donc qui nécessitait une autre action des services de renseignement, puisqu'une menace extérieure était beaucoup plus organisée, il y avait plusieurs personnes qui intervenaient.
C'est le commando du Bataclan,
voilà,
par exemple.
C'est un commando qui, pendant des mois, va avoir des actes préparatoires, qui va se réunir, etc. Et donc, ça nécessitait une certaine prise en compte de la part de nos services. Aujourd'hui,
c'est plus trop la menace, ça ?
Aujourd'hui, alors, elle existe
toujours. On reste toujours prudent, évidemment.
Bien sûr, il faut rester prudent. Mais aujourd'hui, la principale menace se situe sur notre territoire avec des individus qui sont isolés. Et c'est la raison pour laquelle les services sont toujours dans une adaptation continue de leur façon de réagir pour justement s'adapter au mieux à cette menace et donc mieux protéger les Français.
Et ça, c'est pas très simple de s'adapter, de repérer tous ces individus isolés qui peuvent être chez eux, dont on n'entend pas parler, qui font leur petit truc à bas bruit et qui d'un coup passent à l'action. Et vous dites d'ailleurs dans le rapport qu'on n'est pas bon dans la détection des signaux faibles. Qui sont ces personnes qui émettent des signaux faibles? C'est quoi? Comment ils sont surveillés, ces signaux faibles?
Mais justement, c'est toute la question, c'est de repérer ces personnes-là, donc de les affecter après dans un fichier pour pouvoir déterminer la façon dont on va les suivre et dont on va les surveiller, donc en fonction de leur niveau de dangerosité détectée. Donc il y a cette question de la détection de ces personnes.
Et là-dessus, on n'est pas bon?
Donc on peut s'améliorer, mais c'est normal. Il y a toujours cette réflexion qui est continue et qui doit être continue. C'est rassurant. Il faut vraiment que vos auditeurs se rendent compte que notre préoccupation principale, qui est la sécurité des Français, est notre guide. Et pour cela, nous sommes en perpétuel questionnement sur ce que nous pouvons mieux faire. Donc, il y a cette question de la détection de la personne potentiellement dangereuse. Et puis après, il y a la question de l'analyse du passage à l'acte. Qu'est-ce qui va faire que ces personnes-là, parce que toutes ne passent pas à l'acte, qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup, une parmi 1000 ou 100 va passer à l'acte?
Ça, c'est le constat, c'est la photographie, mais encore une fois, pardon d'insister, vous dites qu'on n'est pas très bon sur les signaux faibles. Qu'est-ce qui manque? Il manque des moyens financiers, il manque des moyens techniques, il manque du renseignement humain. Où sont nos zones de faiblesse?
Alors, les zones de faiblesse, et elles sont en train d'être modifiées, améliorées, c'était une évaluation plus fine. Donc aujourd'hui, l'évaluation va être plus fine, plus proche du territoire, plus proche, mieux répartie sur l'ensemble du territoire français, décentralisée en quelque sorte.
Ça veut dire qu'on remet des bons hommes sur le terrain? On remet ce qu'étaient les renseignements généraux à l'époque?
On a des hommes sur le terrain, on a des services qui se parlent. Aujourd'hui, c'était un petit peu ce qu'on pouvait reprocher avant aux services. Ils ne se parlaient pas, ils étaient un petit peu en silo. Aujourd'hui, les gens se parlent, ils se voient, ils se réunissent sur le terrain, dans les préfectures, etc. Les services dialoguent. Et ça, c'est essentiel, je pense, pour la sécurité.
Des fois, les services parlent trop. Vous parlez des fichiers S, hein, les fameux fichiers S. Et vous êtes sévère, vous dites que police et gendarmerie manquent de discrétion. Il paraît que parfois, ce sont même eux qui apprennent à un suspect qu'il est fiché, que ça arrive. C'est-à-dire quand ils interpellent quelqu'un, ils disent « bah toi, t'es fiché ».
La fiche S, pour qu'on comprenne bien, indique une conduite à tenir aux agents qui effectuent le contrôle. Donc, elle n'indique
pas... Ce n'est pas une
pas...
fiche de surveillance.
Voilà. Donc, c'est juste, si vous contrôlez quelqu'un qui est fiché S, voilà ce que vous devez faire. Prévenir tel service, agir dans tel sens, etc.
Pas le prévenir lui.
Donc, ce que nous préconisons dans notre rapport, c'est deux choses. D'une part, simplifier les fiches S pour que les conduites à tenir soient plus claires. Et effectivement, continuer à assurer une formation continue de tous les agents pour que la conduite à tenir soit bien assurée.
Et il y a un autre fichier dont vous parlez, c'est le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.
Tout à fait.
Ça concerne 10 623 personnes, c'est beaucoup, classées en trois niveaux. Et vous en en mettez 4278 en catégorie 3, donc les personnes les plus dangereuses, si j'ai bien compris.
Ah non, c'est dans l'autre sens.
Ah, c'est dans l'autre sens. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes
dangereuses ? Alors, enfin, très clairement, ce fichier-là, donc, en fait, il comporte à peu près 20 000 personnes, 20 000 fiches, 10 000 qui sont actives, 10 000 qui sont classées, archivées, qui sont
donc,
des anciennes
classées, archivées,
fiches.
Classées, archivées, ils sont plus
dangereux ? Donc, ils sont archivés, il y a eu des signalements. Il faut bien comprendre que ça, les 10 000 ou 20 000 personnes ne sont pas 10 000 ou 20 000 personnes dangereuses. C'est des personnes signalées. Mmh. Et à peu près 30% des personnes qui figurent sur ce fichier y figurent parce qu'un de leurs proches ou un voisin a téléphoné, vous savez, au fameux numéro de signalisation. Donc, ce qui se passe, en fait, ce sont des personnes signalées. Et après, les services effectuent une analyse de chaque situation pour après faire une classification de la dangerosité de ces personnes. Mmh. Parfois, des personnes sont signalées à tort et n'ont jamais eu degré quelconque de dangerosité.
Et en tout cas, vous dites, dans les zones de progression, il faut renforcer le suivi et croiser les informations, que c'est très important. Un petit mot des revenants, hein, ceux qui sont partis en Syrie, en Irak, en Libye, et qui reviennent. On aurait recensé 1328 départs pour la zone irako-syrienne. Pour combien de retours, en fait ?
Alors,
est-ce qu'on sait ça ?
On a peu de retours aujourd'hui, parce que l'essentiel de ces personnes est resté sur zone. Et lorsqu'il y a des retours, ils sont immédiatement ce qu'on appelle judiciarisés. Mmh. Donc ils sont mis en examen et souvent, le plus souvent,
ça veut dire
écroués.
Que pour les services de renseignement et du contre-terrorisme, ce ne sont pas des dangers potentiels, ça c'est géré, entre guillemets.
C'est géré, en fait c'est géré. Le danger potentiel, et c'est après ce que nous faisons en développant de façon extrêmement importante le renseignement pénitentiaire, c'est ce qui se passe en détention avec les détenus radicalisés. Mmh. Et ce qui peut éventuellement se passer à la sortie, d'où l'accent mis par notre majorité sur le renseignement pénitentiaire.
Mmh. Alors au total, vous publiez 47 recommandations. Enfin non, vous avez fait 47 recommandations, il n'y en a que 29 qui sont publiées.
Tout
parce qu'évidemment, il y a des choses qui ont été un peu mises de côté. Il ne faut pas trop le raconter publiquement. De ce que vous n'avez pas le droit de dire, de publier, est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent, Yael Braun-Pivet ?
Non. Il faut bien voir que lorsque nous travaillons au sein de la délégation, nous devons naviguer entre deux impératifs. D'une part, nous sommes soumis au secret défense de façon absolument évidente.
Donc
nous avons des informations confidentielles.
On peut croire ce que vous nous racontez, ce que vous publiez.
Bien sûr,
vraiment,
parce que...
On a le droit d'être vraiment rassuré en vous écoutant ce soir.
Nous effectuons au nom du peuple français un contrôle démocratique et ce contrôle démocratique se voit à travers ce rapport qui est accessible en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Donc tout citoyen français qui s'intéresse à ces questions peut lire ce rapport qui est public depuis aujourd'hui.
Merci beaucoup Yael Braun-Pivet d'être venu nous le présenter en exclusivité ce soir sur RTL.